Un bon film, non ?
Oui, très.
Très ?
Ouais.
Très, très doux.
On va en parler un peu plus. D'abord, je vais présenter nos invités quand même, puisque c'est la moindre des choses. Donc, l'objet de cette table ronde, qui est plutôt carrée en fait, c'est un peu de prolonger des thèmes, des choses que vous avez pu donc, entendre et discuter donc, depuis deux jours, mais sur d'une façon un peu plus, entre guillemets, on va dire, un peu plus ludique, à travers l'expérience de trois artistes, donc, via le prisme du cinéma. Ludique, mais ça ne veut pas non plus dire qu'on va dire des choses pas profonde du tout. Trois expériences, trois artistes. Je vais commencer par les dames. Céline Tran, vous êtes actrice et scénariste de BD, mais entre 2002 et 2013, un peu plus avant.
Je ne sais même plus.
Vous avez oublié ?
De 2000 à 2013, j'ai à peu près, ouais, j'ai été actrice X.
X sous le pseudonyme
de
Katsuni. Ouais. 300 films.
Oh la vache, ça fait bien longtemps que je ne les compte plus.
Donc moi j'en avais dénombré 327 sur Wikipédia.
Il ne faut jamais lire Wikipédia.
Oui, c'est ça le problème. Donc, voilà. Mais on va dire à peu près dans ces eaux-là.
Ouais.
Dans ces eaux-là, vous avez mené une carrière donc, aussi bien en France qu'aux États-Unis.
Voilà. En Europe et aux États-Unis.
Voilà. Et vous avez arrêté donc en 2013.
Oui.
D'accord.
Oui, oui.
Jacques Nogo, comment vous présentez Jacques Nogo ? Acteur, chez beaucoup de gens, beaucoup de scénaristes, beaucoup de réalisateurs, je ne vais pas tous les citer, mais quand même, André Téchiné, Paul Vieccari, Claire Denis, Bertrand Bonnego, Rabahammer Zaymesh, Benoît Jacquot, vous êtes aussi scénariste, j'embrasse pas donc, André Téchiné, et réalisateur. Surtout, ou peut-être, je ne sais pas. Trois beaux films, Arrière-Pays, La Chatte à deux têtes, et Après que j'oublie. Avant que j'oublie, donc. Et en filigrane donc, de ces trois films, donc, le thème, ce n'est pas pour réduire ces trois films à ça, mais le thème, on va dire, de la prostitution masculine, mais vu sous un angle très, très intime, très, très autobiographique, on peut le dire.
Truc quoi ?
Autobiographique, intime.
Non.
Non. Intime, peut-être.
Ça parle de moi. Oui,
oui voilà.
Très égocentré, on dirait.
Voilà. Bon. C'était. Je vais employer un euphémisme, on va dire, mais voilà. Donc, c'était autobiographique, égocentré, mais pas égocentrique.
Non. J'espère que non. Enfin, je suis spectateur à dire si c'est égocentrique ou non. Moi, je l'ai pas pensé comme ça, mais c'est vrai qu'il y avait une urgence. Voilà, à faire les trois en tout cas.
Une nécessité.
C'est une prolongation comme ça, du même personnage, à âge différent et à parcours différent. Voilà.
Romain Campillo, scénariste, monteur, réalisateur, scénariste, on va dire, historique d'Oran Cantet sur l'emploi du temps, Entre les murs, vers le sud, qui traitait donc, du tourisme sexuel, de la prostitution masculine en Haïti. Donc, via trois femmes d'âge mûr, donc Charlotte Rampling, avec qui vous avez joué dans, chez François Ozon dans Sous le sable. Donc, trois femmes d'un âge mûr donc, qui vont chercher du sexe et aussi un peu d'amour en Haïti. Vous avez aussi réalisé surtout Eastern Boys, un film aussi donc, sur... Pas sûr, parce que c'est toujours dire que c'est un film sûr, mais avec Antoine Defond, toujours pour ne pas réduire au sujet, la prostitution donc masculine, mais cette fois venant d'Europe de l'Est. Donc vous êtes un peu dans un versant, violence des échanges dans le milieu tempéré, donc économie, mondialisation et tout ça, mais vous avez... à travers ces deux films, en tant que scénariste donc de Vers le Sud et scénariste et réalisateur donc des Stone Boys, donc vous avez enveloppé ça dans une histoire d'amour. Enfin, vous dites que ce sont des histoires d'amour. Donc, vous pouvez dire un mot par rapport à ça.
Par rapport à l'histoire d'amour
ou... Oui, par rapport au fait, oui.
C'est une question. C'est dur de commencer par parler d'amour, mais c'est vrai que en fait. Moi, j'ai l'impression que mon film est un drôle de film sur la prostitution quand même, parce qu'en fait, ça part de l'idée d'un groupe qu'on observe à la gare du Nord. Et moi, l'idée, c'est qu'au fond, on ne savait pas tellement très bien quel est... Moi, je m'intéresse un peu aux troubles sur l'activité humaine, ce que font les gens exactement dans la rue. J'étais très, très inspiré par un film allemand qui s'appelle « Les hommes le dimanche », qui tournait à Berlin dans les années 30. par des gens qui vont devenir des grands réalisateurs américains, style Billy Wilder, etc. Ils l'ont fait à trois, je crois, si je me souviens bien. Et donc, on voit Berlin et l'activité des hommes le dimanche, du jour où ils ne font rien, etc. Et moi, ça m'intéressait de partir de ça. Et en fait, là où le rapport est ambigu, c'est que ce sont des jeunes qui, en grande partie, font semblant de se prostituer et mettent en place un piège. En fait, ils vont chez un client et le piège un peu à son propre jeu. Quoi. C'est-à-dire que lui est venu chercher quelque chose chez eux, c'est-à-dire leur corps, et eux vont chez lui pour prendre des biens. Et en fait, un des personnages de la bande, celui qu'il était allé chercher, et comme j'imagine aussi beaucoup de clients de prostituées, il y a l'idée d'une romance quand même dans la tête de ce mec, revient. Et en fait, il utilise pour le coup la prostitution pour revenir dans la vie de cet homme. Donc c'est, voilà, et que va se créer entre eux un lien qui est, dont on peut dire qu'il a à voir avec de l'amour, mais dont la définition de l'amour n'est pas si nette, n'est pas si claire, et aussi une relation dans laquelle la domination est toujours présente malgré tout. Voilà, et que les deux niveaux, en fait, coexistent, et que leur relation d'amour est une négociation entre ces deux niveaux-là. Et cet amour va se métamorphoser au fur et à mesure du film.
C'est assez beau, d'ailleurs, tout ça, mais j'ai pensé au père, ouais. Plus à la recherche du père. Ouais. Et de l'amour sans sec. À un moment donné, il veut faire l'amour, je crois. Oui. Il ne veut plus. Et le micheton, ouais. Donc moi maintenant, m'arrête. Ne veut plus parce qu'il sait qu'il est passé dans une autre phase. Ouais. Ça, c'est des moments très, très forts. Quand j'étais gigolo, j'ai connu ça. C'était très, très beau.
Et c'était très intrigante. On passe d'une relation marchande à une relation filiale qui est très intrigante, comme vous dites. Est-ce que c'était évident de passer de ça
à... En fait, le film a été inspiré par une histoire vraie. Enfin, c'est comme toujours saisi. Enfin, moi, je ne suis pas très fort, je ne fais pas beaucoup de documentation quand je fais un film. Je préfère délirer tout seul dans mon coin et puis de temps en temps, pour être sûr de certains trucs, je vais vérifier des choses. Mais c'était une histoire d'un ami d'ami qui, effectivement, d'un homme qui avait une cinquantaine d'années, qui avait fini par adopter une personne qui était son petit copain, et sans doute quelqu'un qui avait sans doute du sexe tarifé entre eux. Donc, comme son fils avait 32 ou 33 ans, il l'a adopté en adoption simple, si je me souviens bien. Et voilà, et que c'est un truc qui peut paraître choquant, mais moi, j'essaie pas de faire des films pour essayer de choquer ou de... J'essaie de comprendre comment c'est possible. Et donc, au fond, il y avait presque un sujet, presque de films fantastiques ou de films de science-fiction. Les Américains ont cette expression, les what-if films, les films qui partent sur l'idée de « et si finalement quelqu'un, enfin, dans une relation humaine... l'amour se transformait, se métamorphosait à ce point-là. Et donc, j'ai essayé de trouver une possibilité de voir comment ça pouvait évoluer à ce point-là. Et donc, j'ai enfermé ces deux personnages au cœur du film pendant à peu près 50 minutes et j'ai fait une espèce de reportage sur leur relation et l'évolution de leur relation au point d'essayer de rendre ça plausible. Et en fait, j'ai trouvé une espèce de logique parce qu'il y avait, pour en revenir à la prostitution, moi personnellement, j'ai mon opinion politique sur la question de la prostitution, etc. Mais évidemment, quand je fais un film, je fais de la politique un peu autrement. C'est-à-dire qu'au fond, je me laisse aller à essayer. La mise en scène, pour moi, c'est vraiment la prise de risque par rapport à comment ça se passe dans la réalité vraiment. Qu'est-ce qui se passerait au lieu d'essayer d'imaginer des choses toutes faites, la prostitution de la domination ou d'un autre côté il peut y avoir des rapports d'amour tout à fait normaux dans la prostitution. Moi j'essaye au contraire de mettre ça en scène et de voir tous les niveaux et toutes les contradictions, surtout tous les troubles qu'il peut y avoir dans cette relation. Et pour moi, il y avait quand même un truc qui était très important, je pense, c'est que le personnage Daniel, le type qui a une cinquantaine d'années, il n'imagine la romance tant qu'il ne sait rien de ce jeune homme. C'est-à-dire que tant qu'il ne connaît pas son histoire. Et à un moment du film, le jeune homme raconte, parce que c'est un jeune Ukrainien qui a vécu en Tchétchénie et son père a disparu en Tchétchénie, quand il raconte son histoire, évidemment, leur rapport se modifie. C'est des rapports qui s'étaient déjà modifiés parce que, comme dans une histoire de couple aussi, il y a une espèce d'épuisement sexuel aussi, quelque chose comme ça. Et le fait qu'il raconte qu'il ait une histoire à lui, qu'il ait une histoire propre, en fait, rend leur relation beaucoup plus complexe. Et j'ai l'impression que le personnage de Daniel ne se sent plus à la hauteur de ce jeune homme. C'est-à-dire qu'il ne se sent plus dans cette possibilité d'un rapport un peu léger quoi, avec ce jeune homme.
Ce que vous décrivez dans le film, c'est une utopie.
C'est une utopie. Enfin, moi, je crois vraiment que c'est des utopies. C'est les relations, l'amour. Enfin, c'est marrant parce que sur la question, par exemple, de faire, de baiser avec quelqu'un une nuit ou dans un parc, etc. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait une vraie relation d'amour, qu'il y avait une espèce de truc qui était jeté comme ça, qui était très fort. J'ai jamais réussi à sentir le côté glauque de ce truc-là. J'ai toujours ressenti qu'au contraire, il y avait une espèce de fraternité assez incroyable. Et donc, moi, je crois, mon film est certainement très tiré par les cheveux, parce que c'est ce qui m'intéresse dans la fiction, c'est d'aller trop loin, évidemment, mais je crois vraiment qu'on est traversé par de l'amour, que l'amour ne fait pas défaut dans ce genre de situation complexe. Après, il n'empêche que dans le cas de ce sexe tarifé avec ce genre, il y a quand même la domination est tout le temps là, quoi. C'est-à-dire que c'est le piège dans lequel le personnage Daniel s'enferme un peu lui-même, quoi.
Vous l'avez vu, Esther Boyd, pour les spectateurs, si. Voilà. Moi, je pense qu'il y a la question du père et la question de l'âge. Je me permets de dire ça parce que si la cinquantaine, c'est très dur à vivre la cinquantaine. Il y a la solitude de cet homme. Homosexuel. Et quand vous dites qu'il ne sait pas qu'il est tarifé, moi je pense que vous êtes naïf. Parce que, attendez, quand on va à la gare du Nord, on sait où on est. Hein. Je veux dire, et quand on va à l'exemple d'Europe de l'Est, j'allais dire de parler comme ça, on sait où on est. On n'y va pas par ce qu'on plaît. Donc qui s'illusionne, lui, à 50 ans, de vouloir plaire, ça le réconforte. Mais il paye,
Mais ce n'est pas parce qu'il paye qu'il ne croit pas, quand il va brancher le jeune homme, que c'est comme un rendez-vous amoureux.
Absolument.
C'est ça ce qui se raconte. Je ne dis pas que c'est une réalité, en tout cas.
Mais ça peut arriver aussi. Oui.
Déjà ?
Oui, c'est bien.
Il y aura des questions après.
Ah bon, excuse-moi.
C'était pas de mal, mais Jacques Nogo, donc Romain Campillo a son propre rapport fictif, imaginaire par rapport à la prostitution masculine. Vous, dans vos films, donc c'est du vécu. Comment est-ce que vous mettez ça en scène, enfin, ce thème de la prostitution masculine, comment est-ce que vous mettiez ça en scène dans vos films?
Je ne sais pas quoi répondre à ça, parce que c'est pas... Vous savez, le vécu, il est fait pour être dépassé, fictionné. Mm-hmm. Donc après, je ne sais plus ce qui est la réalité ou pas. Je ne sais pas de quel film vous parlez, mais si vous parlez de J'embrasse pas, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Donc c'est échiné, il faut lui demander à lui. Moi, il n'y avait pas Emmanuel Béard dans le film, c'était le garçon, donc en l'occurrence moi, puisque vous dites que c'est autobiographique, mais c'est un peu vrai. Et c'est vrai que j'étais maqué à 18 ans par un Yougoslave, et qu'on m'a fait faire le tapin, ça a duré 2 jours, hein, parce que chez les hommes ça ne dure pas beaucoup, avec travesti ou les femmes c'est plus compliqué. Donc j'étais maqué, c'était dans mon scénario, le premier pas. Et quand André, j'ai pas eu l'avance sur recette, tout le monde était très choqué, c'était en 98. C'était le scandale. Et je n'ai pas fait. Téchiné m'a, je peux dire le mot, supplié de lui donner. Donc j'étais ravi qu'il lui donne. Après, pour des raisons, je crois... moi, j'étais un peu plus ghettoisé. Et pour des raisons de croyance et de public, André a hétérosexualisé le personnage et a mis Emmanuel Béard dans le rôle du personnage. Et dans mon film, je finissais travesti déjà dans mon premier film comme dans le dernier. Et André n'a pas pu faire le film tellement que les gens étaient choqués. C'est parce que Philippe Noiret et Emmanuel Béard ont dit oui qu'il a pu faire le film. C'était déjà très compliqué à l'époque. Donc c'est lui. Donc moi ça ne me regarde plus. Oui, je veux dire. Mais c'était mon histoire quand je suis arrivé à Paris. Oui.
Et sur les films suivants, ce que vous avez fait?
Alors, je ne sais pas si les gens l'ont vu. Alors, je n'ai pas fait exprès les autres, si vous voulez. C'est que... chaque fois j'étais au bord du suicide, alors je suis embêté. Alors le premier, c'est l'arrière-pays. Mes parents étaient morts, alors je me suis inspiré d'eux. Le retour au pays et puis la matinée, ouais, enfin bon, c'est compliqué pour moi. J'ai pas fait exprès, c'était écrit en 3 semaines. Et alors le retour au pays, il découvre que son père est pas son père, ça c'est vrai. Mais après, je crois que j'ai un peu amélioré les choses. Mais c'est vrai que ma mère a couché avec tout le monde, quoi. Elle a eu 3 enfants de 3 pères différents. Elle était très en avance. Elle était très belle et j'aurais pu monter un village avec les 3 enfants parce qu'il y en avait un qui était médecin, un qui était boucher, un qui était boulanger. Et moi, je suis le fils du boucher. Et donc ça, je l'ai su parce que j'ai su écouter. Je suis parti à 16 ans chez moi. J'ai su écouter les gens et j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'écouter aussi ou de m'écouter. Alors, je n'ai pas fait exprès, c'était bien. Et après la chasse de tête, mon fils est mort du sida, Saïd, le seul avec qui j'ai aimé, je crois. On m'a aimé, mais moi je ne m'en souviens plus. Et il est mort du sida et j'ai écrit la chasse de tête en 4 jours. En mémoire, parce que dans l'arrière-pays, j'ai peur d'être long par rapport. Dans l'arrière-pays, tout le monde me disait, mais il est sympathique, Jackie revient, mais quelle vie mène-t-il à Paris ? On voulait savoir, c'était le genre de mec qui arrive dans son village qui découvre tout ce que je viens de vous dire. Et mon fils est mort et je me suis dit, mais c'est génial, voilà pourquoi. Je peux dire, j'ai passé ma vie dans le cinéma porno, j'aime ça, les cinémas porno hétéro à l'époque. Et donc je n'ai plus qu'à reproduire, je n'ai plus qu'à faire les choses. Par contre, avoir une éthique, une politique cinématographique, c'est-à-dire ne pas faire la réalité, parce que ça tombait dans l'homophobie pour moi, et pour faire plaisir aux grands spectateurs, dans le côté cage aux folles, comme ça, la caricature, et je ne voulais pas ça. Donc je me suis dit, voilà la vie qui mène à Paris. Donc je me suis enfermé en cinéma porno, dont les souvenirs me sont revenus 20 ans après, et où j'annonce avant que j'oublie plus tard, parce qu'après j'ai fait, donc j'ai pas fait exprès. Donc avec une éthique, je me suis inspiré des Zoom for Love pour le plan, pour l'érotisme, tout ça, et je parle des travestis d'une façon assez élégante, si je peux me permettre. Et après, mon ami est mort, j'étais accusé par la police de l'avoir tué, on a failli m'enfermer, et j'ai écrit avant que j'oublie en 8 jours. Sur un vieux monsieur qui devient un michton et qui se paye des gigolos et qui est nu, voilà. Ça vous va ?
Ça me va très bien.
Ça va. En fait, tout ça, pour modifier. Une fille tellement chiante à côté.
Ah, pas du tout. Non. Tout c'est admiratif de ce que vous faites, de votre travail. C'est du travail. Moi, je l'ai connu aussi. Vous n'inquiétez pas, elle n'a même pas filmé, mais vous savez, quand on couche avec des vieux machins qui vous aiment, en plus, c'est affreux. Et vous dites oui, moi aussi. C'est moi, c'est à vous. On a plein de points communs, vous allez voir.
Oui, on va
en parler. On part de vécu, donc Céline, oui. Je voulais vous faire réagir par rapport au film qu'on a vu.
Oui.
Réagir, est-ce que pour vous, c'est une vision réaliste de ce qui se passe sur un tournage?
Alors réaliste, voilà, il y a mille et une réalités, il n'y a pas une seule version d'un tournage, et puis surtout, il y a des perceptions différentes. En tout cas, ce qui est montré dans ce film, c'est effectivement quelque chose qu'on pourrait très bien voir sur un tournage à Los Angeles. C'est assez typique. J'aime beaucoup le fait, finalement, que toute l'équipe technique, le réalisateur y compris, soit très neutre, très absent au final. Tout est centré sur l'actrice et son compagnon, son compagnon de scène qu'elle semble connaître depuis longtemps. Et au final, je trouve que c'est un film qui est très intéressant puisqu'il pose la question vraiment du choix et de la performance. Et d'où vient le choix ? Parce que ce n'est pas si simple de dire « Oui, bah, je fais ça parce qu'après tout, je suis libre de le faire parce que j'en ai envie. » Oui, mais cette envie est conditionnée. Et ce film le montre. D'où vient cette envie d'un seul coup, ce souhait de la part de cette actrice de faire une double anale alors qu'elle sait très bien que physiquement, ce n'est pas « entre guillemets dans la nature des choses ». Ce n'était pas du tout quelque chose qu'elle souhaitait au départ, ce n'est pas quelque chose qui l'excite. Voilà, moi je pense que l'intérêt de ce film, c'est de montrer finalement comment est-ce que lorsqu'on est en immersion dans un métier comme celui-ci, sans avoir de jugement moral, on peut être amené à faire des choses, à les demander, parce que personne ne lui demande, mais tout en étant conditionné. Finalement, le vrai vice, le vrai danger est peut-être là, dans ce glissement vers lequel on tend sans s'en rendre compte. Et j'ai été témoin de ça. Et j'ai aussi participé à ça au cours de ma carrière. Bon, là, c'est vraiment la performance pour la reconnaissance d'un milieu, pour une forme de revanche aussi, une forme de domination par rapport aux, sur les hommes, en fait, qui sont sur le tournage, une forme de reconnaissance vis-à-vis de son compagnon de tournage. On sent qu'elle a besoin de son regard, même si elle n'est pas amoureuse. Il y a cette complicité, il y a ce besoin d'être reconnue. Et en cela, je le trouve très, très pertinent. Encore une fois, comme je le dis, il y a mille et une réalités, et il y a aussi d'autres cas de tournage qui se déroulent de manière très différente, où la fille est excitée, où la fille le fait sans s'en rendre compte, où la fille ne le fait uniquement parce qu'il y a peut-être une nomination pour une remise d'award en fin d'année, et elle se dit, si je le fais, je vais sortir du lot. Voilà, il y a plein de cas de figure différents. En tout cas, c'est une vision
intéressante. Si on a le contexte sexuel, vous pouvez transposer ça dans un contexte d'entreprise, c'est pareil, c'est les mêmes idées de compétition, de reconnaissance. Donc c'est un métier.
Je pense qu'on a dû parler. Elle dit à un moment donné, mais de façon discrète, et ça paye bien.
Oui, c'est vrai. Oh, ouais. C'est très bien souris, dit. On va dire que c'est la souris sur le gâteau. Ouais.
Mais c'est pas appuyé.
Et à mon avis, le fait qu'elle le dise, c'est encore une manière d'appuyer une forme de domination. Au moment où elle le dit, c'est regardez, je vous ai eu. J'étais pas censée le faire. L'autre, elle s'est dégonflée, elle a pas pu le faire. Pas moi, je vais le faire. Et à ce moment-là, elle pense, alors après, à tort ou à raison, quelque part dominer le jeu, puisque même l'équipe technique est un peu déroutée. Son pote de tournage qui au départ disait c'est cool quand même, c'est impressionnant, finalement non, ça lui plaît pas tant que ça, quoi. Donc c'est une forme de domination. Maintenant c'est un piège aussi.
La domination, c'est au cœur donc de Stone Boys, cette idée de contrôler quelque chose au travers d'une relation tarifée. On s'aperçoit qu'on ne contrôle rien, mais au-delà de ça, c'est au-delà de la relation tarifée, il y a tout ce qu'il y a derrière, les relations nord-sud, les déséquilibres économiques, aussi bien envers le sud, entre une occidentale et Haïti, donc, et là, dans Eastern Boys, entre Europe de l'Est et Europe de l'Ouest, et, ça ouvre tout un champ qui va aussi bien, et la migration, et sans papier, ce genre de choses. Est-ce que vous pouvez développer cette idée de... Vous disiez que vous n'avez pas fait de recherche spécifique sur ce film-là, mais c'est quand même une réalité.
C'est-à-dire que j'ai l'impression, quand on travaille sur un film, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est rendre justice au lieu et aux personnes. Et pas tellement... je vais peut-être chercher à valider certaines choses par des études sociologiques, etc. Mais par exemple, la question... Pour moi, je me suis perdu pendant 3 ans dans la gare du Nord. C'est-à-dire, vraiment, j'ai observé comment ça se passait, etc., comment fonctionnait ce lieu, et comment il fonctionnait. Alors, il a une fonction, c'est une gare, et puis il y a l'autre fonction, ce qui est, comme on pourrait dire, une métafonction, autre chose qui se passe là. Et moi, c'est ça, c'est au fond ça qui m'intéressait, c'est d'observer ces gens, effectivement, qui ont une activité que je ne comprends pas, que je ne saisis pas. Et l'activité, quand on regarde vraiment ce qui se passe, on ne se dit pas, il y a plein de gens qu'on voit, et on ne se dit pas, c'est des prostituées. C'est pas forcément des prostituées, c'est des gens qui ont des rendez-vous. C'est très compliqué de décrypter ce genre de choses. Donc, en fait, je partais de là. Par contre, sur la question, c'est vrai que j'avais lu une étude qui montrait le piège qui est utilisé dans le film, c'est qu'au fond, le client, on va chercher un jeune homme qui doit avoir une vingtaine d'années, et le lendemain, le jeune homme lui donne rendez-vous chez lui. Le client s'y refuse un peu, la Danielle s'y refuse un peu, il finit par accepter, et quand le jeune homme débarque, ce n'est pas lui qui débarque, c'est un enfant. Et qu'il ouvre la porte, et d'un seul coup, il se trouve piégé, parce que le chantage à les pédophiles est tellement fort qu'il ne peut pas crier, il ne peut pas appeler la police, il ne peut rien faire, et donc il est neutralisé. Alors on peut trouver ça horrible, et en même temps, je trouve que le piège est extrêmement intelligent. Enfin, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est vrai que ça arrive sur l'étude que j'avais lue sur des jeunes qui donnent rendez-vous, qui vont avec le client, alors plutôt dans un sex shop, et qui au dernier moment disent, mais tu sais, je suis mineur, donc tu me passes ta carte bleue, etc. Et, Et c'est vrai qu'encore une fois, moi, c'était sur la question du piège. Et pour en revenir à cette question, parce que je pense à ça par rapport au film de Jacques, c'est que moi, ce qui m'intéressait aussi, c'était de montrer un personnage d'une type qui a une cinquantaine d'années, qui est ouvertement gay, visiblement, qui a vécu, qui est dans un appartement avec lequel il a vécu avec un homme autrefois. L'homme a dû partir, ou enfin, ils se sont séparés, il a dû garder l'appartement, etc. Donc, c'est un type qui est assez assumé, qui n'est pas un type dans le placard, à mon sens, etc. Là, ce qu'il reprend comme risque, c'est le risque de la clandestinité, qui, moi, me paraît être quelque chose qui est toujours très désirable. On a tendance à opposer. Ça a été, par exemple, le cas en Angleterre, quand le mariage gay est passé. Le conservateur, donc Cameron, disait, mais il faut qu'il y ait le mariage, parce qu'il faut qu'il y ait de la stabilité dans les couples gays. Je ne suis pas sûr que ça soit un gage de ça, hein, évidemment. J'espère que ça n'en est pas un, en tout cas. Et voilà, et donc ce personnage-là, il reprend, il va chercher, et c'est quand il va à la gare, moi je me dis que je ne sais, il va chercher un plan cul, mais je pense qu'il va chercher un risque. Et c'est marrant parce que je repensais à ça dans le film de Jacques. Jacques parle avec un autre personnage, et l'autre personnage dit « Oh là là, j'ai eu très peur la dernière fois, il m'est arrivé quelque chose d'horrible. » Et Jacques lui répond « Tu as eu de la chance. » Et pour moi, il y a quelque chose comme ça dans mon film, de se mettre, d'aller vraiment vers des gens que l'on ne connaît pas aussi, de se mettre dans la possibilité de rencontrer quelqu'un qu'on n'est pas censé rencontrer. C'est ça aussi le choix.
Et le danger.
Et un peu le danger.
Le risque qui fait partie de la sexualité.
Oui, mais là-dessus, je tiens à préciser un truc, parce que quand il y a un peu cette tarte à la crème aussi, notamment sur l'homosexualité, qui est le risque, ce serait la mort. Ce serait Eros et Thanatos, enfin, tout ce truc-là, etc. Or, pour moi, le risque, ce n'est pas forcément la mort, c'est vraiment un risque, c'est-à-dire de se retrouver aussi, de risque de se sentir con, risque de... Il y a plein de formes de risques, et ce n'est pas forcément la mort ou l'autre absolu, voilà. C'est autre chose qui se joue là-dedans, et je pense que cette question du risque, c'est aussi une manière de vouloir... se métamorphoser. Et là-dessus, encore une fois, ce qui m'intéresse dans le dernier film de Jacques, c'est la manière, le rapport que tu as avec le micheton, c'est qu'on pourrait penser que lui, payant, il exige des choses. Or, c'est l'inverse qui se produit, c'est le micheton exige des transformations du personnage de Jacques, jusqu'à autre métamorphose finale, à ce qu'il se travestisse. Et moi, dans mon film, c'est évidemment autre chose. C'est ce qui se joue, c'est au fond, je pense que Daniel juste s'emmerde dans sa vie, quoi. Et que donc, quand il va chercher un autre, il se met en danger. Et moi, c'était un truc qui m'intéressait simplement par rapport à ma pratique du cinéma. Moi, j'avais fait un premier film en pensant que la mise en scène, c'était quand même du pur contrôle, quoi. Mon précédent film s'appelait Les Revenants, et donc... Il y a un plaisir à ça, hein, à se dire tout ce qu'on a imaginé va être sur l'écran. C'est-à-dire de tenir les gens et les gens vont jouer comme on veut, etc. Là, j'ai fait autre chose. J'ai décidé que j'allais laisser mon film être envahi par les autres. Donc, j'ai tourné chez moi. Et donc, l'envahissement est effectivement dans mon propre appartement.
Très beau.
Et l'appartement, oui.
Ah ouais.
Et j'ai mis du temps.
Moi, c'est jambe de bonne.
Oui. Et donc,
vous avez une très belle vue.
Oui, une très belle vue. Oui. Et donc,
sûr que c'était à vous. Je suis furieux.
Allez, je vis pas seul, c'est ça.
Oh oui, c'est monstrueux.
Et donc,
t'es sûr, j'ai failli vous téléphoner. C'est chez vous. Continuez, je vous en prie. Ça m'énerve.
Je suis désolé.
Oui.
Et donc, en fait, je suis allé chercher des acteurs russes, c'est-à-dire des gens, notamment le jeune acteur russe qui fait Marek, c'est un garçon qui ne parle ni français ni anglais. Et donc, le type est arrivé chez moi pour faire des répétitions et on avait oublié de prévoir tout de suite une traductrice. Donc, j'ai ouvert la porte et je me suis retrouvé comme le héros de mon film face à lui. Et on s'est dit, mais comment on va faire maintenant pour communiquer? Bon, on a fini sur Google Traduction, comme tout le monde. Mm-hmm. Et parce que... Non. Et donc, voilà, c'est un truc où, pour moi, il y a quelque chose dans le cinéma qui reste un truc du vertigo de Hitchcock, où on va choisir quelqu'un qu'on l'amène dans notre monde et qu'on le métamorphose pour le faire rentrer dans notre quotidien. Là, le quotidien, dans le tournage. Et pour le personnage de Daniel, c'est sa vie. Et voilà, il y a quelque chose comme ça, moi, qui me fascinait dans le fait de faire un film assez intime avec des gens ce qui existe aussi sans doute dans le porno, hein, d'ailleurs, des gens dont on se dit, mais d'être tout de suite dans une relation très forte à des gens qu'on ne connaît pas.
On parlait d'un film intime, mais on ne sait pas grand-chose de Daniel, enfin, du personnage joué par Vera Brunin. On ne sait pas quelle est sa profession.
Parce qu'on pense que l'intime, c'est son CV.
Sa biographie, oui.
Sa biographie. Et pour moi, c'est justement, dans le cinéma, c'est la vie clandestine, la vraie. Enfin, pour moi, la vie, quoi. Il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. J'ai toujours l'impression. Alors, moi, je suis très fâché avec la caractérisation des personnages. C'est-à-dire vraiment dire.
Avec la psychologie.
Oui, mais leur travail, combien de temps ils mettent pour aller à leur boulot, etc. D'un seul coup, moi, ça m'épuise, quoi. Donc, là, j'ai botté entièrement en touche. J'avais tourné une scène plus longue avec ses amis, etc. Puis, j'ai tout coupé parce que ça me. Je trouvais ça vraiment. Sa vie ne m'intéressait pas, en fait. Et donc voilà, je me suis plutôt intéressé à la vie qu'il essaye de s'inventer ou la manière dont il prend des risques pour se réinventer lui-même, quoi.
Jacques Nouveau, je vais revenir à Château de Tête, puisque donc, Robin donc, part de la gare du Nord comme d'un espace de tapinage donc, assez dangereux. Dans Château de Tête, est en fait un cinéma porno donc, avec son théâtre, avec ses rituels, donc un peu plus codifié. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de la façon dont ces passes, dont cette prostitution masculine peut s'acclimater dans un endroit comme ça, dans un cinéma.
Au départ, c'était une pièce de théâtre que je voulais pas faire. C'est des accidents de rencontres que je provoque en même temps, parce que je n'ai pas très confiance en moi. Et j'avais tourné avec... et la productrice avait lu la pièce... Et j'ai failli le jouer. Et c'est un lieu unique comme ça. Puis après, je me suis dit, merde, je ne suis pas chez Ro, personne ne viendra à Vitry ou truc. Et j'ai eu peur que les acteurs non professionnels, enfin pour le théâtre, je me serais entouré d'acteurs professionnels, caricature après les personnages, on devienne un petit peu la cage aux folles, tout ça. Je ne voulais pas cautionner ça, si vous voulez. Puis ça coûtait plus cher que le film. Alors la productrice, quand elle a vu la pièce, elle m'a dit, mais si tu veux, vous devriez le scénariser. Et moi, c'est comme un peintre, si vous voulez. C'est écrit en 8 jours et je ne peux rien faire. Alors moi, je l'ai déposé au CNC, mais je n'ai pas pu travailler dessus. J'ai rajouté des pigeons, du ciel, et puis j'ai mis Dalida, Ingrid Cavan, plutôt que Travelo 1, Travelo 2, Travelo 3. Et ça a été un scandale au CNC. Alors je ne l'ai pas eu. Et puis, le hasard a fait que j'avais 2 amis qui aimaient mon travail, et puis je l'ai eu. Et alors, j'ai dit, on va le faire. Alors, je connaissais un film porno, qui maintenant, le propriétaire n'est pas content que je dise ça, qui est le Place de Clichy, à côté de la librairie, qui était là où j'allais. On attrapait des morpions tout le temps, etc. Et il faisait des travaux, il a arrêté les travaux, c'est génial, il a arrêté les travaux pour que je puisse faire mon film, quoi, parce qu'il avait vu l'arrière-pays, il a aimé. Et j'ai reconstruit, là, je suis très prisonnier du quotidien, très prisonnier de la réalité, quoi. J'en suis même malade. Enfin, et alors j'ai refait le truc, exactement la même chose, les sièges cassés, tout ça. J'ai pas remis les morpions, mais ils étaient là. Et j'ai tourné en 22 jours, voilà. Et ça a été, et qu'avec des non-professionnels, par contre... Alors, ça a été très compliqué à trouver les acteurs, parce que c'est grâce au casting, Jacques Grant, qui était bien sur ce coup-là. Les principaux, je les ai pris, c'est des copains, Olivier Torres, pour faire les travestis. Je m'étais inspiré de ma génération à Ingrid Cavan. Et après, j'avais vu In the Mood for Love, et j'ai pensé que c'était plus Maggie Cheung pour In the Mood for Love, la couleur du tapis avec les mouvements de caméra. Alors, puis, il y avait des vrais gens du cinéma porno que j'abordais. Un grand-père colonel, à la retraite, qui s'habillait en femme, qui est Paul dans la vie et Carole cinéma porno, que j'ai abordé, ils sont venus. Et puis ça a été très compliqué le tournage, parce qu'il fallait, vous savez, quand vous parlez de sexe, c'est très, très, très compliqué. Il fallait être très prudent, très, très psychanalytique, très, j'étais très vigilant au détriment de moi-même, de mon personnage. Et tous les acteurs ont accepté. Au départ, ils voulaient pas. Et c'est des faux godes. C'est des Gold Michel, enfin c'est des Gold quoi, c'est pas le sexe, c'est des Gold Michel. Et au ralenti, les monteuses prenaient son, on voit qu'ils partent, l'ego de Michel, il tombait, enfin bon. Et alors au début, il ne voulait pas, puis après, ils en redemandaient, tous ces acteurs non professionnels. Et alors, et ils me demandaient, certains me demandaient, je ne veux pas faire mon numéro, quand même, ils me demandaient, il y avait pris pas mal de mecs de cinéma porno, c'était pratique pour tourner, vous savez, parce que comme les gens de la Gare du Nord, je ne sais pas si vous aviez des vrais de la Gare du Nord, c'était des vrais de la Gare du Nord. Non. Parce que moi, j'ai pensé ça, que c'était presque des vrais que vous aviez pris, ce que j'étais pris, donner la réalité. J'étais très jaloux de cette réalité-là qui passe très très bien dans votre film. Et tout ça, on le voit tout de suite, on comprend tout de suite, on piche tout de suite. Et là, il me demandait, tu peux pas me mettre à côté d'un tel, il me plaît. Alors je me mettais à côté d'un tel, et entre les prises, il se passait des choses, je crois, enfin, etc. Et ça s'est tourné en 22 jours, et ça a été assez violent. Hein. Je frime un peu, mais assez violent.
Violent dans quel sens, ce tournage ?
Tendu. Mm-hmm. Tendu et concentré.
Ah bah, oui.
Voilà, oui. Et le haut et le bas, donc on avait tout calculé. Parce qu'en haut, ils parlent et en bas, ils agissent. Mmh. Et je voulais parler, justement, les homosexuels qui se travestissent. Ça me fascine, je suis jaloux de ça, quoi. Qui se travestissent pour pouvoir accès à des hommes auxquels ils n'auraient pas accès si ce n'était pas travesti. Parce que les hommes, je vais être un petit peu réducteur, mais les hommes, je connais un bout quand même, les hommes, j'ai couché avec beaucoup, tous hétéros, alors. Et ils se font enculer comme des reines, mais on peut se faire enculer sans être homo, alors bon, je suis un peu embêté. En tout cas, pour dire, tous, ils allaient là en douce, je voulais parler de ça, je voulais parler de cette solitude-là, et du fait qu'ils osent aller là, quoi. C'était en fait des endroits sublimes pour eux, pour oser assumer leur fantasme, quoi. Et ça, j'ai connu très bien ça très longtemps, quoi. Et ça, c'est Giscard qui a libéré le cinéma pour nous, mm-hmm, en 76-80, et les salles étaient pleines, c'était sublime pour draguer, et maintenant, ça, avec le sida, tout ça, après, et Canal Plus et tout ça est très...
Internet.
Et maintenant, Internet, oui. Enfin, voilà, sur le filmique, ça a été... Par contre, j'étais très, très, très vigilant. Il y a eu deux personnes qui se sont permis des moqueries sur les travestis, qui étaient des acteurs, des vrais et des acteurs hétéros, les travestis, je les ai remis à la place, ça a duré que 3 minutes, j'ai été très ferme, et il n'y a pas eu de débordement, parce que c'est très 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 fragile, ces genres de scènes, quand on tourne et qu'on fait des choses comme ça, c'est très très bien, et sinon il y a eu beaucoup de respect et beaucoup de malaise de ma part qui faisait partie du rôle, quoi.
Céline, depuis hier, donc on parle de sexe et de métier.
Depuis avant même.
Depuis même avant, ouais. Comment est-ce que pendant 10 ans, vous avez envisagé ce métier comme un métier ?
Bah justement, en ne le considérant pas comme un métier, mm-hmm, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Alors oui, évidemment, enfin, c'est un métier dans le sens où il y a des exigences professionnelles, comme dans n'importe quel autre métier. Eh bien, on se pointe à l'heure, on signe des contrats, on s'adapte aux conditions professionnelles. Oui, absolument. Il y a aussi des agences, enfin pas en France, mais aux États-Unis. Donc c'est tout un business, vraiment, toute une industrie. Mais en ce qui me concerne, moi, et ça ne reste que mon expérience personnelle, je l'ai toujours vu comme un jeu, comme une énorme blague. Puisqu'au départ, j'étais pas du tout destinée à faire du X, c'était pas du tout un rêve de petite fille, pas vraiment. Et j'ai commencé ça comme une blague, comme un défi personnel, parce que justement, j'étais l'opposé de ce que pouvait être une pornostar, puisque j'étais extrêmement introvertie et physiquement, j'avais pas du tout le physique de l'actrice X blonde, voilà, extravagante, enfin, sachant qu'à l'époque, on était vraiment dans l'ère de Gina Jameson et vraiment, on était vraiment dans l'ère des pornostars. Et j'ai commencé par jeu, par curiosité, par défi et je suis restée pour les mêmes raisons. Pour le plaisir et pour... Et en fait, c'est devenu un métier sans que je m'en rende compte. J'ai continué à être étudiante quand j'ai... Enfin, j'ai continué à... J'ai poursuivi mes études une année supplémentaire quand j'ai commencé les tournages. Et ensuite, c'est devenu une évidence. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on sait qu'on ne se trompe pas. C'est quand les choses s'imposent à vous comme une évidence. Et de la même manière, lorsque j'ai arrêté il n'y a pas longtemps, ça a été aussi une évidence. Justement parce que ça n'était plus qu'un métier. Et là, je me suis dit, il faut que je m'en aille parce que je ne suis plus là pour les bonnes raisons. Dès que ça devient alimentaire, Pour moi, encore une fois, ça devient malsain à ce moment-là, en fait. Non pas que je n'aime pas gagner de l'argent avec ce métier, parce qu'il y en a, mais non, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est l'exploration personnelle, c'est la rencontre, c'est un terrain de jeu. Et en dehors du porno, il y en a aussi tellement d'autres à explorer. Donc pourquoi se limiter à ça? Il y en a d'autres. Il faut reconnaître en tout cas que c'est, on va dire, un terrain assez propice aux découvertes et au fait de repousser ses limites aussi.
Quelle est la différence entre le terrain en France et le terrain aux États-Unis?
Justement, alors je parle d'une expérience qui date maintenant d'il y a 13 ans. J'ai commencé en France, ensuite j'ai tourné un peu partout en Europe et ensuite aux États-Unis. La différence flagrante, c'est le fait qu'aux États-Unis, il y a tout est regroupé dans ce qu'on appelle la Porn Valley, donc à Los Angeles. C'est un marché forcément plus important puisque c'est un territoire plus important, parce que le Hollywood pornographique se trouve à Los Angeles pour l'instant. À partir de là, il y a plus de moyens, il y a plus aussi de professionnalisme puisque tout est centralisé. Donc il y a par exemple, pour aller au niveau de l'hygiène où on va se tester au même laboratoire, il y a des agences où toutes les actrices désormais sont inscrites. Tout est centralisé et quelque part, ça rend les choses aussi plus professionnelles, plus fiables, plus rassurantes, puisqu'il y a une structure. En France, de mon expérience à l'époque, et encore une fois aujourd'hui, je ne sais pas comment c'est, on va dire que c'était plus système D, et en même temps, c'était ce qui donnait du charme à l'industrie, c'est que déjà, on venait pas par hasard. Aujourd'hui, c'est devenu un job. Surtout aux États-Unis, en tout cas, les filles font du porno comme elles sont strippeuses. Ou comme elle pourrait bosser au McDo. Ça, c'est devenu un job. Après, maintenant, ce n'est pas forcément facile de l'exercer et d'y rester. Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très accessible. En France, quand j'ai commencé, ça restait quelque chose de caché. Internet n'avait pas encore explosé. Moi, je me souviens de mon premier accès au porno, ça a été d'ouvrir la porte d'un sex shop, un peu glauque d'ailleurs, et de regarder les cassettes vidéo vendues très cher, et de dire waouh, ouais, c'est ça du porno, elles sont trop fortes. Et du coup, je voyais les actrices porno un peu comme des Wonder Woman, en fait.
Et, comme des stars.
Oui, un peu comme des extraterrestres, en disant mais ouais, elles sont surhumaines, en fait, pas forcément meilleures que les autres femmes, mais en tout cas avec une sorte de pouvoir magique, un pouvoir de fascination sur la gente masculine, et en cela c'était plus sulfureux, et donc accéder à cette industrie, c'était aller de l'autre côté du miroir et goûter un peu à cette forme de pouvoir. Et au final, ça a été aussi une grande surprise. Lorsque j'ai fait mes premiers tournages, je m'attendais effectivement à tomber dans le cliché qu'on expose souvent dans les médias ou dans le cinéma, avec ce côté mafieux, glauque, dangereux, violent. Et finalement, j'ai rencontré des gens qui étaient drôles, qui avaient cet esprit du jeu. Et que j'ai perdu ensuite, justement, par la suite, quand j'ai travaillé aux États-Unis.
Donc aux États-Unis, c'est une industrie, et en France, c'est une PME?
Je ne sais plus comment c'est en France aujourd'hui, ouais. Vraiment. Je ne dis pas qu'il ne reste pas encore des gens qui ont cet esprit de fantaisie. Peut-être que c'était moi qui n'étais pas normale, au final. Enfin, c'est vrai que des fois, je me dis, tiens, non mais c'est vrai, quand j'ai arrêté lui, je lui dis... Oh, et arrive un moment où on se dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? J'ai l'impression qu'on ne parle pas le même langage, on n'est pas là pour les mêmes raisons. Et au bout d'un moment, alors au départ, on en veut au milieu parce qu'on se dit, le milieu a changé, ah, c'était mieux avant, le fameux ah, c'était mieux avant. Et en même temps, je crois qu'il faut aussi admettre, c'était mieux avant, pour ma part, mais il faut aussi admettre, il faut aussi se dire, oui, mais moi aussi j'ai changé. Et voilà, il y a un décalage. Et le. Moi, le porno qui me plaisait, c'était ce porno d'il y a plusieurs années où d'ailleurs j'ai rencontré Ovidie et où on a des souvenirs de colonies de vacances, en fait, où il y a une forme d'insouciance et je dirais même une forme d'innocence, parce que vraiment, on le ressent un tout petit peu là dans le court-métrage qui a été visionné. Il y a une forme de copinage, une forme d'amour entre acteurs et actrices. Il y a aussi beaucoup de maladresse, c'est vrai, mais il y a une vraie... Il y a beaucoup d'affection, en fait.
C'est amusant parce que c'est un discours qu'on appliquait au porno des années 70, quoi, au porno d'avant, à l'époque du 35 mm, où les gens disaient que c'était mieux avant, qu'il y avait un esprit de copinage.
Une forme de tendresse.
De tendresse.
Aujourd'hui, en tout cas sur les derniers tournages sur lesquels j'étais, j'ai souvent vu l'actrice être sur son téléphone en train de tweeter son dernier selfie. Voilà, ça c'est mon dernier make-up pour ma scène. Et de voir le mec derrière qui vient de prendre son Viagra et qui s'en fout de parler à l'actrice parce que de toute manière, à quoi bon ? Et chacun va retrouver son petit copain, sa petite copine, avoir une vie très équilibrée à côté de ça. Mais il n'y a plus ce sens du jeu. Il peut exister encore, mais pour moi, je l'ai vu disparaître en tout cas.
Donc il existera une forme de tendresse encore, par contraste aux pratiques, on va dire, un peu plus extrêmes ou un peu plus violentes.
Oui, c'est ça qui est paradoxal. Parce que moi, j'ai l'impression... J'ai toujours dit qu'il n'y avait pas plus romantique qu'une actrice X. Mon premier réflexe, après avoir fait des scènes ultra hard, c'était d'aller avec les mêmes mecs avec lesquels j'avais fait une scène à plusieurs, d'aller voir le dernier Disney. Et en fait, non, il peut avoir beaucoup de tendresse. Ce qui n'est pas montré ici... dans ce court-métrage, c'est qu'est-ce qui se passe quand la caméra est coupée.
Dans les regards.
Un petit peu, oui. Mais qu'est-ce qui se passe quand la fille donc, fait sa scène et que la caméra, à un moment donné, est coupée. Bon, parfois, il peut y avoir aussi beaucoup de solitude. Là, il y en a un petit peu. Et puis, parfois, vous avez des rapports entre acteurs et actrices, des fous rires, comme il y en a eu aussi ici. Et puis des gestes d'attention, d'affection, des petits mots, derrière la performance extrêmement hard, il peut y avoir énormément de tendresse. Mais d'ailleurs, personnellement, je n'aurais jamais fait ce métier et je n'aurais jamais été autant, entre guillemets, dans la performance si je n'avais pas eu ça. En ce qui me concerne, plus en fait, toutes les scènes que j'ai faites qui ont pu être ultra hard, en retour, il faut comprendre que derrière, il y avait un environnement dans lequel je me sentais en sécurité. Et c'est parce que je me sentais en sécurité, c'est parce que je me sentais bien avec mes partenaires, que j'avais confiance en eux, que d'un seul coup, je les autorise à aller au-delà et à se dire « Ok, on ne sait pas ce qui va se passer. » Et c'est ça qui est génial. Il y a cette part de risque et cette part de lâcher prise. On se dit... Je ne vais pas le faire parce que je vais être nominée pour les prochains AVN, qui est une cérémonie de remise de prix. Je ne vais pas le faire parce que je vais être plus payée. Je ne vais pas le faire parce que je veux prouver quoi que ce soit. En fait, je ne me pose même plus la question. Je le fais parce que je me sens bien. Et voilà. Donc, sachez que même s'il y a des déviances, évidemment, même si certaines actrices, certains acteurs aussi vont vivre ce métier d'une manière différente et parfois un peu plus... malheureusement un peu douloureuse, il y a aussi des expériences qui sont fabuleuses, parce qu'en fait on explore, c'est juste l'envie d'explorer et de donner. Je pense que le spectateur, j'espère, parfois arrive à saisir c'est une forme de générosité, en fait.
Romain Campio, je vais parler de la tendresse dans Vers le Sud, cette tendresse qui s'achète chez ces femmes d'un certain âge.
Alors, pour Vers le Sud, justement, on avait rencontré une femme qui allait dans les îles en Guadeloupe et dans les îles anglaises aussi, je ne sais plus, à côté d'Haïti, justement. Et c'était assez impressionnant. C'était une femme qui approchait des 70 ans et qui... Il y avait quand même un truc, c'était une évidence quand même, c'est-à-dire qu'elle considérait qu'elle n'était plus considérée. C'est-à-dire considérée, c'est-à-dire regardée, c'est-à-dire juste comme quelqu'un avec un physique. C'est-à-dire, et que quand elle allait là-bas, elle avait l'impression qu'elle redevenait belle et que on peut trouver ça pathétique ou je ne sais quoi. C'est, moi, je pense que c'est une réalité, quoi, et que ce truc-là, je pense, l'a bouleversée. Et que moi, c'est ce qui me touchait. Alors, dans le film, ce qu'on a essayé de faire, parce que le film est quand même inspiré de 3 nouvelles de Daniela Ferrière, c'est pas nous qui avons inventé les personnages, on a beaucoup travaillé les 3 nouvelles qu'on a mises ensemble. C'est vrai que en réalité, sur les 3 femmes, il y en a 2 qui savent que tout ça est illusoire. Et c'est-à-dire qu'en réalité, ça ne tient, et il y a effectivement de la tendresse et de la joie et de la légèreté que tant qu'on accepte l'idée que c'est illusoire. Et la nouvelle venue, enfin qui est revenue parce que, en fait, quelques années auparavant, elle avait fait l'amour avec Legba, et pour elle, c'était comme si une histoire d'amour avait commencé le jour où elle avait baisé avec lui. Quand elle revient, elle veut vivre cette histoire avec ce jeune homme. Et en même temps, là, cette volonté de construire un truc qui est un peu impossible fait tout exploser. Et que, en fait, c'était aussi... c'était là-dessus. C'est-à-dire qu'au fond, c'est... moi, c'est marrant, comme c'est presque la notion de romance qui pour moi est importante. C'est-à-dire, ce que j'appelle la romance, moi, c'est justement le fragile édifice de tendresse et de fiction qu'on crée dans une relation avec quelqu'un dont on sait que c'est éphémère ou que c'est, voilà, qu'il y a quelque chose. Et que pour moi, c'est aussi le cas dans Eastern Boys. Pour moi, c'est marrant parce que je suis allé présenter le film en Suède où, comme vous le savez, la prostitution, enfin en tout cas les clients de prostituées sont déjà... Et le film est assez mal passé là-dessus. On me disait, est-ce que vous n'êtes pas en train de romancing prostitution? Est-ce que vous rendre la prostitution romantique ou la romancer, enfin. Et moi, j'ai répondu, c'est possible, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de romancer l'amour lui-même? C'est-à-dire que pour moi, c'est à contrario dans les histoires de couple, de se faire croire qu'il n'y a pas d'économie dans le couple, de se faire croire qu'il n'y a pas d'arrière-pensée dans le couple, de se faire croire qu'il n'y a pas de désir plus ou moins fort, le fait qu'on n'admette pas que souvent, au bout de 5 ans, les gens ne baissent plus ensemble, etc., ou qu'il y a en tout cas et qu'on considère que c'est une catastrophe, etc. Pour moi, c'est tout ça l'hypocrisie sur l'amour lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, c'est pas comme si dans mon film La prostitution était la métaphore de quelque chose, mais c'est qu'elle elle montrait des pratiques dans le couple qui me paraissait assez proche de ce qu'on peut vivre dans un couple qu'on dirait normal, qu'il soit gay ou hétéro, hein, bien entendu, ou lesbien. C'est vrai que la question de la tendresse, de l'économie, tout ça est un peu négocié tout le temps, quoi. C'est pas honteux que ce soit des négociations. Au fond, je crois que c'est ce qui m'intéressait vraiment dans ces histoires. Et oui. Mais il y a un truc.
Personne n'est dupe, non?
Oui, mais ben, je crains que si. Ben,
on
si,
compose.
Quand même. Ben, il y a encore nombre de films qui se terminent par un mariage ou par un couple qui se forme, etc., comme si l'histoire s'arrêtait là, alors qu'effectivement l'histoire commence à ce moment-là. C'est quand même assez frappant, et même maintenant. Et par ailleurs, je voulais dire un truc sur ce que vous disiez sur le travail, l'impression de... Moi, je sais que si je fais du cinéma, c'est parce que j'ai essayé, et je suis un enfant des années 70, de ce point de vue-là. Nous, il n'y avait pas, d'une certaine manière, il n'y avait pas la crise, et donc il fallait attendre le dernier moment pour se mettre à travailler, pour avoir un emploi. L'emploi du temps, le film de Laurent, est très inspiré par cette notion. Et qu'au fond, moi, je sais que je fais du cinéma parce que c'est une tentative d'échapper au travail. Comme un peu ce que vous disiez sur... Et que, quand je parle d'activités humaines, je parle d'activités humaines qui sont en dehors du monde du travail. C'est-à-dire et que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, quand on parle du cinéma porno, effectivement, vous ne savez plus où on en est, parce que je pense que, vous avez dû en parler, l'économie du porno, je ne sais pas ce que ça peut être aujourd'hui avec Internet, mais ça doit être quand même très compliqué, vu que des gens font des exhibitions eux-mêmes, chez eux, donc je pense qu'il y a un désir de ça qui est, à mon avis, très fort. Et donc... je pense que ça doit être difficile maintenant, aujourd'hui, de faire carrière dans le porno, en France. Hein. Je ne sais pas comment ça se passe aux États-Unis, parce qu'ils ont encore des studios assez forts. Et donc voilà, c'était juste pour dire ça, parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression que mon métier, ça a été une manière, un peu à votre manière, d'échapper à cette impression. Et l'intérêt du cinéma et la force de faire des films, c'est qu'on réinvente son monde à soi à chaque fois. C'est-à-dire qu'on se recrée une république, un pays. Et que donc, il y a une notion presque de métamorphose perpétuelle qui est assez agréable. Moi, je ne suis pas le même réalisateur. J'ai fait que deux films en tant que réalisateur, mais j'ai quand même été sur pas mal de plans. Je ne suis pas le même créateur selon le film que je fais, quoi.
Vous êtes d'accord, Jacques, sur cette idée de s'inventer un pays, un arrière-pays, à travers les films ?
Répétez.
De cette idée de Robin, donc, qu'on se réinvente. Qu'on se réinvente un pays à travers...
Oui, mais je suis un tout petit peu... moi, je ne fonctionne pas du tout. Oui, je comprends très bien, mais ce n'est pas mon truc à moi. Mais je voudrais quand même que les spectateurs soient là pour quelque chose, quand même, pour poser des questions, non ?
Oui,
vous avez envie,
temps.
Non ? Peut-être.
On allait y venir, ouais.
Oui, parce que sinon... Non, mais c'est très bien. On a
fait le tour,
voilà. Mais on peut revenir de nous trois, c'est à vous de savoir à qui vous voulez poser des questions.
Je pense qu'il y a des questions dans la salle. Voilà.
Yes.
Votre film a été excellent. Merci. Excellent. C'est un thriller social, j'adorais. Mais les spectateurs, ils étaient vraiment odieux. Parce qu'ils ont, comme ils étaient sous Sarkozy, ils disaient, vous voyez les voyous, ceci, cela, il n'y a pas assez de sécurité. Voilà comment ça se passe à la gare du Nord. Ils n'ont rien compris. Je ne me suis pas garé. Je ne peux pas imaginer. Et maintenant qu'il est en DVD, je lui dis, va l'acheter. Et chaque fois, je fais de la publicité parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Chaque fois qu'il est vrai, réel, les salles sont vides. On reste 5, 6 à vivre ça. Votre cinéma est excellent, mais les gens sont bornés. Je vous assure pourquoi. Parce qu'il n'y a pas une analyse. Ils ne sont pas libérés de se parler, d'aller plus loin. C'est incroyable. La classe la plus senior, alors là, je ne vous dis pas, c'est quelque chose. On y est, ils sont dérangés. L'autre film qui partait vers Haïti, voilà, et tout, excellent aussi. J'adorais. Parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup de solitude. Il y a une solitude sexuelle en France. Et ça, ils ne disent pas. Comment ils sont malheureux, comment ils ne parlent pas de leur corps, de leur plaisir, rien. Et je vous compare même à Ulrike Steiler. Vous le connaissez ?
Non.
Ah, ben, il faut absolument voir tous ces films autrichiens. Autrichiens. C'est un dialogue que je fais parce que j'adorais ce que vous avez fait. Ulrike Steiler, il a fait du réel, import-export. Il était là ici, mais il n'est pas aimé. Je ne sais pas pourquoi. Son dernier
Trilogie
film, c'était
Paradis-Amour.
Paradis-Amour. Ah oui,
les
femmes autrichiennes, viennoises, qu'elles partent au Kenya. Et là-bas, elles sont... Voilà. C'est tout, moi, je n'ai pas une question.
Merci, alors.
Je suis complètement avec vous.
Merci.
Merci, bonsoir. J'avais une question à Jacques Nolot. Est-ce que vous trouvez, c'est mon point de vue, je voudrais avoir le vôtre parce que vous êtes beaucoup, à mon avis, vous êtes beaucoup plus pointu en la matière que moi. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce qu'a gagné l'homosexualité en termes de reconnaissance sociale, j'entends par là, pendant des années, des siècles, pour ne pas dire des siècles, a été réprimée, elle a été cachée. Est-ce que vous ne trouvez pas que ce qu'a gagné l'homosexualité en termes de reconnaissance sociale, elle l'a perdu d'un point de vue artistique ? Est-ce qu'aujourd'hui... Est-ce que Jean Genet aurait pu écrire ce qu'il a écrit ? Est-ce que Cocteau aurait pu faire ce qu'il a fait si effectivement à l'époque l'homosexualité n'était pas quelque chose de, enfin, lié au sacrilège
Ou Pasolini.
Ou Pasolini, mais, qui a mal fini malheureusement lui aussi.
Non, mais vous, là, je suis embêté de vous répondre parce que c'est trois grands talents et des grands talents comme ça, il y en a pas beaucoup. Et par rapport à l'homosexualité, je veux dire le cinéma français. Godard, il avait une belle phrase, les professionnels de la profession. Je veux dire, c'est très très embêtant tout ça. Je pense que la télévision est responsable de beaucoup de choses. Et je pense que les metteurs en scène, comme celui qui avait Pédale Douce, je suis furieux après ces gens-là, ou les acteurs, moi je refuse beaucoup, les acteurs qui, on vous propose des rôles homo. Ça veut dire quoi un rôle homo ? Je veux dire, il y a des rôles hétéros ou il y a des rôles homo ? Je veux dire ça. Et qui cautionnent de jouer, sauf, je ne sais pas, contre la cage aux folles, hein, pour la caricature, parce que je suis d'accord avec ça. Mais la petite parodie comme ça, c'est de l'homophobie. Et je pense que le cinéma français, ou que se donne bonne conscience, pour des raisons budgétaires et matérielles, à une pensée hétérosexuelle française qui les rassure. Et ils ont besoin de ça. Alors maintenant, qui est responsable, je ne sais pas. Je pense que des gens comme André, ou comme François Ozon, ou Patrice Chéreau, quoique Patrice Chéreau a eu des tendances, a fait des films quand même qui ont été assez rigoureux là-dessus, je pense. Pas si je réponds à vos questions.
Non, moi, je peux dire un mot.
Oui, monsieur, au contraire.
Moi, je ne crois pas du tout. Enfin, je pense que cette normalisation, elle devait arriver, je pense, de toute manière. Et surtout, moi, j'ai une inquiétude par rapport à ça, parce que j'entends beaucoup ça de l'époque. Oh là là, c'était mieux que les homosexuels, c'était mieux quand c'était Oscar Wilde.
J'entendrai après.
Et pour moi, il y a une espèce d'assignation à la rébellion que je trouve un peu truquée, en réalité, parce qu'on parle d'une autre époque où, de toute façon, il y avait beaucoup de grands auteurs, pas seulement homosexuels. Et je pense, moi, je ne crois pas du tout que ça a à voir avec la normalisation. Je pense que vraiment, ça a à voir aussi avec une époque, avec d'autres choses. Je sais pas. En plus, franchement, on peut dire ça, oh là, les homosexuels, c'était mieux, mais enfin, leur vie, c'était dur, quoi. Oscar Wilde est allé en prison, il en est revenu meurtri, il en est mort après. Je veux dire, c'est pas désirable. Alors après, on peut considérer, bon, ben, c'était mieux quand ils étaient malheureux parce qu'ils étaient plus géniaux. Mais personnellement, moi, je pense que c'est faux. Voilà.
Mais Sébastien Lipsic en parle très bien. L'inconnu du lait, Alain Guiraudy, pour rester sur le côté artistique, en parle aussi très très bien. Je trouve ça. Ça, c'est du talent, c'est l'élégance. Et quand je vois Pédale Douce, je vois ça parce que quand je vois Gérard Darmon et tout ça, et La Roque, qui vont quand même sur les chaînes de télévision, et ça fait du tort, je pense. Et chaque fois où la Gay Pride, ça c'est les médias qui sont responsables. On passe que les caricatures homosexuelles. Et les homosexuels sont responsables de ce racisme-là. Et la communauté n'est pas un cadeau gay. Je trouve, j'ai vu une émission hier à France 2, qui bien sûr à 23h, où il y avait des témoignages de garçons qu'on a trouvés. Quand vous lisez une phrase sur Libération, un homme nu dans un parc a été trouvé éteint, enfin mort, ou bref, il y a une page. Et un homme nu, et en même temps, peut-être qu'il faut parler, ça concerne les gens concernés aussi. Mais parce que moi, quand je vois un homme nu dans un parc, je vois déjà qui c'est, quoi. Je veux dire, bon, alors, déjà, il faudrait traduire. Bon. Mais on n'en parle pas, alors que d'autres communautés, on en parlerait beaucoup plus. Et on a créé quand même une association qui s'appelle Le Refuge. Et Jean-Marie Perrier a fait un bouquin très beau là-dessus. Je connais des gens qui sont virés encore maintenant de chez eux, je veux dire, parce qu'ils sont gays. Et je connais des gens dans mon village, j'en parle avec passion, parce que ça me trouble et on me dit que je suis un vieux machin, que je radote que ça a changé. Non, rien n'a changé. Comme a dit une dame l'autre jour, si vous voulez, j'ai vu un jeune garçon l'autre jour dans mon village, où je suis particulièrement marqué, pour les raisons que vous imaginez, l'enfance est toujours présente, je veux dire complètement folle, assumée apparemment, mignon, et il me dit, je viens à Paris, je me suis dit, oh là là. Et qu'est-ce que tu veux faire, coiffeur? Et je me dis, sauver. C'est affreux de penser comme ça. Si vous êtes boucher ou charpentier ou charcutier, croyez-moi, c'est dur. Je veux dire. Et tout ça, tout est comme ça. Et quand ces gens parlent, tout ça, et si on habite le Marais, et si on habite Paris, le Marais, je pense que moi, l'homosexualité n'est pas un cadeau. Je pense que c'est un plus quand on est jeune, et ça se retourne avec vous, avec le temps. On ne l'a pas choisi, et c'est très violent. Et il n'y a aucun progrès. Apparemment, oui. Mais d'un instant, vous dites que mon fils est pédé, vous allez voir. Je dis à mes copains qui ont des enfants. Ah, il va être pédé, je fais naïvement. Il va être pédé, ton fils, je pense qu'il va être pédé. Si vous voyez la tête du père, vous êtes sûr qu'ils ne sont pas contents.
Non, mais moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça. Mais avec le fait, enfin, moi, je n'ai jamais considéré qu'être pédé était une malédiction, personnellement.
Ah, je n'ai pas dit que c'était une malédiction, j'ai dit que ce n'est pas un cadeau.
Mais Ouais, moi je sais pas, j'ai été plutôt, enfin je suis toujours assez content.
Mais ceux qui
mais par contre,
ça m'intéresse parce que ceux qui s'assument, alors moi, alors je suis homophobe, hein, je suis embêté comme tout. Alors moi, ceux qui s'assument avec leur petit caniche, leur petit truc, le truc le week-end, on va acheter des fleurs, on va tout. Moi, je peux pas. Je suis malheureux, je suis tout seul, hein, dans ma chambre de bonne, j'ai pas d'appartement. Bon, là, j'ai un problème. Hein.
Bon. Non, mais en tout cas, mais je comprends ce que vous vouliez dire, c'est vrai qu'en même temps, si vous regardez bien en fait, les films qui sont sortis, je veux dire aussi bien le mien que les films de Jacques, le film de Guy Redi, etc., je pense que ce sont quand même des films qui sont plutôt du côté d'une certaine survivance, d'une clandestinité et d'un écart par rapport à la société. Et moi, je ne considère pas que je fais ce film contre le mariage gay. C'est pas lié. C'est pour moi, y a ces deux choses qui sont différentes. En tout cas, moi, je n'ai jamais considéré l'homosexualité comme intéressante en soi. Ce que je trouve intéressant, c'est des pratiques qui sont liées à tout ça. Voilà. Et des choses qui sont inventées, des lieux de drague, des choses comme le cinéma de la Chata de Tête, des choses qui se créent, qui sont... Alors, tu es contre la communauté, mais qui, pour moi, sont un peu de la communauté. Qui sont quelque chose, en tout cas... En tout cas, ça, pour moi, ça en fait partie. Après, moi, je suis moins fâché que toi avec les garçons torse nus à la Gay Pride. Tant mieux pour eux.
Oui, alors, moi, je vais terminer là-dessus. Non, je suis d'accord. Moi, je vais beaucoup dans le Marais. Je suis le plus vieux du Marais. J'y vais beaucoup dans le Marais, comme un peu, on va voir la famille qu'on n'aime pas trop, vous savez. Et vous y allez quand même parce qu'elle vous manque. J'y vais parce qu'elle vous manque. Bon, j'y vais. Et j'ai beaucoup de jeunes qui sont un peu amoureux de moi. Ils disent que j'ai une parole, enfin, je ne sais pas quoi. Ils sont un peu intéressés par cela, pas trop. Enfin, bon, d'autres, oui. Moi, j'aime les putes, j'aime les gigolos, j'aime tout ça. Donc, mais je ne fais plus rien. Alors, tout ça pour vous dire. J'ai un ami charmant qui s'appelle Oreste, je vais le nommer parce qu'il a un très beau prénom, on est amoureux de son prénom, qui était un homme brun, charmant, délicieux. Il était amoureux de moi, paraît-il, moi je ne m'en rends pas compte. Et alors, je me laisse faire, pour lui faire plaisir, à 70 ans, et il devient blond, elle est blonde. Je me promène avec lui dans le Marais, il est blond, elle est blonde, avec mon petit chien. Je suis la caricature de ce que je viens de dire. Attendez, je vais me mettre en deux. Je suis furieux parce que les garçons building, là, les machos, un peu comme les travelots qui excessivent la féminité, si vous voulez, et les homos qui excessivent la virilité, se moquent tous de mon copain Oreste parce qu'elle est blonde. Et eux, ils sont complètement aussi ridicules avec leurs muscles. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai. Non, attends. Par contre, ce que je veux dire, c'est très bien qu'on puisse se retrouver, parce qu'avant, il y avait des dangers, il y avait tout truc, j'étais cambriolé 10 fois, je vais tuer 3-4 fois, comment voulez-vous que je ne sois pas un peu dans une amertume joyeuse? Voilà, enfin, je ne suis pas contre la communauté, hein, en soi, mais je ne suis pas d'accord pour le mariage, mais s'ils veulent, ils se sont bien, je les envie, je n'ai pas cette... malheureusement, je n'ai pas cette facilité ou cette... Ben, je suis construit différemment, quoi. Question pour les films ou pour les trucs?
Dernière question.
Dernière.
Courte, c'est ça.
Bonsoir. En fait, c'était une question pour Mademoiselle Tran. Par rapport au porno, à une époque, j'avais lu la biographie de John Holmes. Et ensuite, j'avais vu le film qui était un peu romancé, Boogie Nights, et je voulais savoir, la question c'était, est-ce que vous avez vu dans votre carrière, ou vous avez été témoin, de carrières comme ça qui montent très haut et ensuite pleines de désillusions et même de drames, en chute libre, quoi, de descente aux enfers. Est-ce que vous en avez déjà eu parmi vos partenaires durant votre carrière?
Oui, évidemment. Celle de John Holmes, elle est vraiment extrêmement... caricatural et en même temps très représentatif de tous les excès, mais j'en ai connu qui malheureusement ont même connu la descente avant même d'atteindre le statut entre guillemets de pornostar, qui ne veut d'ailleurs plus dire grand chose. Mais oui, il y a beaucoup de parcours qui sont qui sont tristes. Maintenant, d'accuser le porno, de dire oui, c'est le porno qui... Ça reste très... virtuel, tout ça. On peut vivre ce métier et se protéger des excès. On peut faire ce métier sans prendre de la drogue, sans même se prostituer. Ce sont deux métiers différents, sans même faire la fête. Enfin, moi, personnellement, je suis probablement l'une des actrices X les plus chiantes de l'histoire du X, parce que je suis très, très scolaire, très, très sérieuse, mais... ça a été à ma manière à moi de m'éclater, en tout cas. Et puis, il y en a d'autres qui s'éclatent et puis qui, malheureusement, des fois, se perdent en cours de route. Et puis, certains aussi qui commencent ce métier sans trop savoir pourquoi. Et effectivement, quand on arrive avec des fissures, quand on arrive blessé, qu'on arrive sans environnement social ou familial solide, sans référence, sans vraiment avoir d'objectif, on peut, dans ce cas-là, effectivement... en fait, ce n'est pas un métier qui va aider, clairement, effectivement. Et c'est un métier qui peut, justement, accentuer tout ce qui ne va pas en soi, parce qu'il y a le rapport, y a un rapport à l'argent, puisqu'on le gagne rapidement, pas forcément beaucoup, mais rapidement. Et puis surtout, un rapport au corps qui... même si c'est un métier, même si on peut avoir de la distance par rapport à son corps et ne pas le considérer comme quelque chose de sacré, et bien mine de rien, ça reste quelque chose d'intime. Et en plus, aujourd'hui, avec Internet, c'est encore pire parce que l'image est démultipliée et même sans être connu, même sans faire des médias, on est exposé, on n'a plus aucun contrôle sur cette image. Et ça, si on ne sait pas qui on est, ça peut être destructeur. Sauf qu'à 20 ans, il est rare de savoir qui on est.
On va conclure sur ces bonnes paroles.
20 ans. 20 ans est un âge, le mot de la fin. C'est peut-être un peu sombre comme fin.
Elle a pas de question.
On a commencé avec le bel appartement de Robin. Je voulais juste savoir, Jacques, si c'est votre appartement qu'on voit au début de... Avant que j'oublie.
Oui.
D'accord, merci.
C'était une question courte.
Elle a qu'à l'air sympathique, là, qui veut parler depuis un moment. Qui ressemble à Jean-Luc Godard.
Elle a dit au pas très court quand même. C'est un peu une réflexion. Bon, on va essayer. Je vais essayer. Une réflexion à l'adresse de Madame Katsuni, pardon, Tran. Voilà. J'étais très très sensible à votre exposé, qui prouve qu'il est d'une. Vous avez donné une analyse très fine, très approfondie, très fouillée de l'âme humaine. Pendant le tournage, et j'étais très touché que vous parliez de chaleur humaine, de tendresse et tout cela, avec vos comparses, vos
partenaires,
collègues. Bon, voilà. Alors, maintenant, la question, enfin, autre chose. Excusez-moi, mais j'ai une observation, mais qui n'est. Vous êtes un petit, on dirait, introverti, trop introverti, mais ça n'est pas une critique, loin de là. D'une part, là, comme ça, on fait l'économie d'un psychanalyste. Et ensuite, pour moi, c'est une force de pouvoir se contrôler, s'autocontrôler, s'autoconstruire soi-même et avoir la moindre conscience de ses moindres gestes. Je m'excuse, mais là aussi, la même remarque vaut pour Mme Ovidi, mais c'est pareil, là, c'est plutôt une appréciation qu'une dépréciation. Mais alors, ma question est la suivante. Voilà la question. J'en arrive à ma question. Maintenant que vous êtes revenu, soi-disant, à la vie normale, entre guillemets, comment voyez-vous le reflet que vous renvoie l'homme de la rue, l'homme, le quidam. Et je pense que c'est pas le même que vous qu'on pouvait percevoir dans le passé, vu l'évolution de la société actuelle.
Wow. Ouais, c'est une question très vaste. Je vais essayer de faire vite.
Qu'est-ce qu'on fait après,
Oui, alors en tout cas, juste pour revenir au fait d'être introverti, c'est vrai. Enfin, il y a beaucoup d'actrices qui sont introverties, beaucoup d'acteurs également qui sont hyper timides. On est souvent d'ailleurs les plus mauvais dragueurs de cette planète. Je pense vraiment qu'un extrême en appelle un autre, en fait. Et personnellement, moi, j'ai fait du porno justement, probablement aussi, entre autres, pour compenser cette grande timidité, et c'est quand même bien pratique d'avoir un pseudonyme, d'avoir 3 tonnes de maquillage sur le visage et une caméra devant soi. comme alibi et pour s'autoriser d'un seul coup à tout se permettre en se disant ah c'est pas grave, c'est pas moi, je peux me lâcher, après tout c'est mon boulot et c'est un jeu. Maintenant, ce qui concerne l'image, ça vous intéresse ce que je dis ou l'image l'image vis-à-vis des hommes, c'est compliqué parce que je pense que enfin j'ai peu de recul vis-à-vis de ça. Je m'expose très peu, en fait. À partir du moment où on est dans une sphère publique, médiatique, de toute manière, l'image est faussée. On a un peu... Disons qu'on a un peu ce qu'on mérite, dans le sens où je ne le prends pas mal lorsque des hommes m'abordent avec... En voyant en moi, en fait, finalement, l'actrice porno, puisque c'est ce que j'ai donné, c'est ce que j'ai montré pendant des années. Après, certains vont avoir plus ou moins de finesse, d'intelligence, de discernement pour avoir du recul vis-à-vis de ça, comprendre où était le jeu, où était la réalité. Mais finalement, c'est à moi. Je pense que on se plaint en fait d'être marginalisé quand on fait du X, mais on se marginalise aussi seul parce qu'on finit par se convaincre qu'on ne peut faire que ça. Et finalement, on trouve une forme de force à s'enfermer dans ce personnage de fille sûre d'elle, performante, extravagante. Et je crois que finalement, la solution, c'est de montrer autre chose. Et c'est aussi la raison pour laquelle je suis ici. C'est que... je ne sais plus ce que je voulais dire. Ce qui importe, c'est de savoir ce qu'on veut donner aux gens, en fait. Et quand je dis donner, je ne parle pas juste d'image. C'est juste quelle est mon intention, qu'est-ce que je veux partager avec eux. Certains ne le comprendront pas, certains ne s'attendront pas à ça, mais ce qui importe, finalement, c'est de réveiller cette curiosité et finalement d'avoir des gens qui vont se dire « Waouh, je ne m'attendais pas à ça, honnêtement. » je la voyais différemment, elle m'a montré une autre image d'elle à travers ses films. Mais tiens, c'est une rencontre plutôt intéressante. Et je pense que c'est mon boulot et c'est le boulot de chacun, finalement, d'être conscient de l'image qu'on donne et de savoir ce qu'on veut vraiment partager. Et le travail d'un réalisateur, de la même manière, c'est ça. C'est quelle histoire vous voulez raconter, qu'est-ce que vous voulez partager avec votre public, que vous soyez compris ou non, qu'est-ce que vous voulez donner. Après, tant mieux si on est compris, tant mieux si on est aimé. Et puis si on l'est pas, tant pis, parce qu'après tout, on est honnête et je pense que c'est la clé, elle est là.
On est prisonnier d'une image, parce que le public est prêt. Moi, j'aime pas trop le mot public parce que je n'aime pas trop, mais le public vous renvoie. Vous l'avez dit très justement d'ailleurs. On est responsable de ce qu'on fait. Hein. Donc après, on ne peut pas s'étonner que l'autre, vous aussi,
voilà, exactement.
S'il n'y a pas distance.
Mais prisonnier, non, je ne pense pas. Enfin,
pour une minorité.
En tout cas, ce n'est pas ça qui va me limiter.
Oui.
C'est ça. En fait, je pense que l'erreur, c'est de se dire « Ah tiens, mince, j'ai créé une étiquette, j'ai créé une image de moi qui est forte. Ah, je suis bloquée là-dedans. » Mais non, on a créé une image, mais on peut en créer... Une deuxième, une troisième, c'est absolument illimité. Donc, en fait, il faut arrêter de voir les choses à l'envers et de se dire, je suis prisonnier de l'image que j'ai donnée, de l'opinion que les gens ont de moi. Mais, OK, ils ont cette opinion-là, mais après tout, qui m'empêche de la changer ?
Merci, chacun d'avoir autant donné. À votre façon, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous pour ces échanges riches et vivants. Je tenais, avec mon collègue Jérémy Desjardins, à remercier tous les intervenants du colloque pendant ces deux journées. Ils ont été nombreux, ils ont été très intéressants. On voulait remercier aussi nos conseillers scientifiques. On tenait aussi à remercier le public qui a été là, nombreux et puis parfois donc tard comme ce soir. L'équipe de la régie, Renaud Guiz, Arnaud Lenz, Bernard Fleury et Pierre Dupuis, les agents d'accueil, tous les services financiers et juridiques de la bibliothèque, parce que voilà, ils ont beaucoup travaillé pour ce colloque, et notre collègue Bernadette Furcy, qui a réalisé la bibliographie que vous avez, vous trouvez à l'entrée. Et par ailleurs, il y a aussi un point de valorisation des collections de la Bibliothèque publique d'information, donc au niveau 2, qui est vraiment très riche, quoi. On a des collections magnifiques et beaucoup, beaucoup de titres qui ont été évoqués et d'auteurs d'intervenants qui sont venus pendant ces deux jours. Voilà. Et vous retrouverez les archives sonores donc sur le site. Il faut chercher un peu parce que ce n'est pas évident, mais sur le site de la BPI. Merci.